Rebonjour à tous et bienvenue à la dernière tranche de cette journée de la radio, 17h30-18h. La journée n'est pas finie avec Transistor. Et aujourd'hui, une nouvelle émission sur Transistor. La première et peut-être la dernière, on ne sait pas, ça dépendra. Une libre antenne. Car oui, aujourd'hui, la radio est à vous. Au programme, comme vous l'avez entendu au générique chanté par Stevie Nicks, parlez-nous de vous et dites-nous tous vos petits secrets. Nous sommes allés à la rencontre de personnes comme vous et comme moi qui nous ont posé des questions. Vie quotidienne, actualité, économie, travail et aussi questions plus intimes.
Merci Marie.
Alors, vous n'êtes pas sans savoir que les intercus ont lieu ce soir à Paris et nos reporters sans limite, qui sont composés de moi-même et de Clémence, sont allés à la rencontre de ce...
Il y a un complexe oedipien là-dedans, je tiens à le dire.
Monsieur, s'il vous plaît,
nous en parlerons.
Oui, d'accord. Vous me laissez continuer, s'il vous plaît.
D'ailleurs, j'en profite, je parlerai de mon livre aussi, si ça ne vous dérange pas, bien évidemment.
Oui, bon, vous aurez 5 minutes à la fin de l'émission, voilà. Bon, ce n'est pas une émission de publicité non plus. Bon, où est-ce que j'en étais ? Bon, oui, un bus partait de la Fontaine Monod et les normaliens et auditeurs qui étaient présents nous ont posé leurs questions sérieuses et moins sérieuses. Autour de moi aujourd'hui pour cette libre antenne, un panel de spécialistes en tout genre. Astrologues, médecins sexologues, psychologues, analystes...
C'est moi.
Oui, on avait compris.
Et moi je suis dandy.
T'es dandy, oui voilà.
Moi je suis dandy.
Dandy. Analyste financier, informaticien et oui, et dandy. Et tout ce panel répondra à toutes vos questions. Je salue donc chaleureusement tous ceux qui seront présents pendant cette demi-heure de Libre Antenne, avec donc de ma gauche Rémi, Héloïse, Clément, Léo et Sirius. Alors, c'est parti pour la Libre Antenne, et sans plus attendre, je laisse la parole à Marie-Clémentine de Sainte-Foy-les-Lyons, qui a un problème avec son fils François-Xavier. Alors, Marie-Clémentine n'est pas là.
Bonjour à Transistor, et merci pour toutes vos émissions. Je vous appelle à propos de mon fils, François-Xavier. Il a 14 ans et je trouve qu'il passe beaucoup trop de temps devant son écran d'ordinateur. Je voudrais donc poser une question au psychologue et à l'informaticien pour savoir si cela pouvait endommager son développement intellectuel et si une exposition trop prolongée devant un écran était dangereuse pour sa santé. Merci beaucoup.
Merci à toi, Marie-Clémentine. Oui, donc une question très importante et très contemporaine.
Alors, en ce qui concerne le problème avec l'écran, en fait, il faut distinguer les écrans brillants et les écrans
mat. Je vous coupe.
C'est intéressant.
Oui, c'est très intéressant. Je vous coupe, monsieur l'informaticien. Donc, vous êtes l'informaticien en chef, Rémi Cerda.
Oui.
Donc, alors, quel est
le problème, c'est que les écrans brillants, si vous voulez, reflètent la lumière. Et du coup, vous prenez tous les reflets dans la gueule, si je peux me permettre.
Monsieur Cerda, on n'est pas dans une émission
dans le visage. Et de toute façon, c'est au même endroit.
Je tiens à dire, s'il vous plaît, dans le public.
Qu'est-ce que je disais ? Ouais.
Oui, les écrans.
Et du coup, ça vous éblouit, si vous voulez. Alors,
moi, je dirais que c'est un problème atomiste, en fait.
Non. En fait, oui, l'exposition prolongée à la lumière, en fait, et la lumière droite dans le visage peut provoquer jusqu'à des cas d'épilepsie après une exposition prolongée. De ce point de vue-là,
très bien, Rémi. Mais je crois que la question de Marie-Clémentine, c'est plutôt une question de développement personnel, parce que voilà, enfin, son fils n'a que 14 ans, et on sait ce qui se passe sur les ondes.
Le développement dans la phase de création d'un programme,
c'est très important. On sait aussi ce qui se passe à 14 ans sur les écrans.
Oui, voilà. Voyons, notre médecin sexologue nous en parle.
À 14 ans sur les écrans, voyons, ce jeune homme doit très sûrement être en train de consulter des sites pornographiques.
Alors, monsieur le sexologue,
il faut le dire.
Qu'est-ce qu'un site pornographique ?
Sérieusement ?
Oui, non, mais pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui ne savent pas ce qu'est un site pornographique.
Si je puis me permettre.
C'est un site où on voit des messieurs et des dames nus.
Non, mais. Ou des messieurs et des messieurs et des dames et des
dames.
J'en ai vu un super avec des canards.
Ah ouais. Tu pourras me passer l'adresse après en coulisses.
Monsieur le psychologue.
La question m'était adressée. Alors, déjà, si votre fils, madame, à mon avis, passe beaucoup de temps devant l'ordinateur, c'est qu'il a beaucoup de problèmes personnels, qu'il se réfugie dans un monde de rêves. Or, les rêves, depuis
dans un monde de fantasmes, je dirais plutôt.
Oui, rêves, fantasmes. Nous en reparlerons, je pense, lors de ce colloque international en Bulgarie la semaine prochaine. Donc, comme le disait si bien Sigmund Freud dans Die Träumung Interpretation, donc l'interprétation des rêves, le rêve est révélateur de nos pulsions internes, de notre mode de fonctionnement interne. J'ai d'ailleurs écrit un livre à ce sujet, Ma vie, mon œuvre, mes rêves, histoire d'un concept, chez Fayard, 27 euros, dans toutes les bonnes librairies. Et donc voilà, les
J'ai écrit
sont...
exactement le même livre avec le même titre, c'est passionnant.
Pardonnez-moi monsieur, mais je pense que nous n'officions pas dans le même registre.
Oui, moi j'essaie.
Oui, donc voilà, donc oui, donc on sait qu'on est dans un système de développement personnel, et donc voilà, donc il en faut un peu pour tout le monde, et je passe...
Et découvre le cul, quoi, c'est tout.
Oui, merci. Voilà. Merci. Et donc il en faut pour tout le monde, et tous nos auditeurs ont droit quand même à une réponse développée, et je passe sans transition à Jean Calin de Villeurbanne, qui nous appelle pour une question intime. Alors, Jean Calin,
votre duplex fonctionne. Bonjour à tous, je vous appelle pour une question gênante. Voilà, ça fait quelques années que j'ai des rapports sexuels avec des femmes, mais avec ma dernière compagne que j'aime beaucoup. Hein, elle a voulu tester la stimulation prostatique. J'étais pas très chaud au début, mais finalement, j'ai essayé. J'ai un peu honte de dire que ça m'a plutôt bien plu. Du coup, je me pose des questions sur ma sexualité. Est-ce que ça veut dire que je suis homo ou bi ? Voilà. Merci beaucoup.
Merci à toi, Jean Calin.
Oui, merci.
Alors, d'un point de vue informatique, je pense que...
Moi, je pense que tout dépend de son signe astrologique, personnellement.
Ah,
je
sais
pas ce qu'on va entendre dans vie, mais...
Je pense qu'il est bélier.
Est-ce qu'il est vierge ?
Non.
Ou gémeaux ?
Non, la question primordiale, c'est y a-t-il eu pénétration ?
Ah bah oui, bien sûr.
Vous êtes juriste ou psychologue ?
Jean Calin l'a dit, il y a eu pénétration par un objet contondant, stimulo et électrifié, et je me tourne...
Oui, et justement, en parlant d'électricité, c'est intéressant de noter en fait la constitution de ces objets, parce que je ne sais pas si vous êtes déjà amusé à les démonter en fait, mais...
Mais non, monsieur Aforesté, il a juste mis son port mâle dans le port femelle de la madame, c'est tout, c'est comme les prises USB, ça marche pareil.
Ces objets ne sont pas faits pour être démontés, mais plutôt pour monter, si vous me permettez ce petit... Alors je me tourne vers vous, monsieur le médecin sexologue, voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire de la stimulation prostatique ? Déjà, pouvez-vous définir ce qu'est une stimulation prostatique ?
Eh bien, c'est une stimulation de la prostate.
Qu'est-ce que la prostate ?
Oui.
La prostate, c'est le truc qui a l'air... Exactement. Mais qui a l'air aussi d'attirer la plupart des cancers masculins après 50 ans. Ne me demandez pas pourquoi, c'est fait comme ça. C'est un organe qui se situe quelque part.
C'est chiant, là.
Et puis voilà.
Moi, je pense qu'il y a un problème de nom et de signe, parce qu'il s'appelle quand même Jean Calin, ce jeune homme. Et quel signe serait un Jean Calin ?
Ah oui, un problème de signe.
Il me semble que Jean Calin est un vierge. C'est plus ou moins ce que notre médecin psychologue savant avait évoqué.
Ah, on confond les registres, là. Il y a eu
mais vous savez, à l'ENS de Lyon, on est très pour l'interpénétration des genres et des disciplines.
Ah, oui,
je pense que tout va bien. Sans transition, encore une fois, nous passons à Alain de Lyon, qui a besoin des conseils de notre psychologue en chef.
Oui.
Vous avez le droit de parler maintenant, après...
Voilà, j'ai 36 ans, et je n'ai jamais eu de relation stable avec aucune personne, seulement quelques histoires, mais rien de bien sérieux. Je me demandais, je commençais à me poser des questions, est-ce que c'est moi qui suis le problème ? Je ne sais pas trop comment rencontrer quelqu'un et fonder un vrai couple.
Alors, sur le sujet, monsieur, si je peux me permettre, vous m'avez l'air relativement jeune. Vous êtes, à mon avis, né au mieux à la fin des années 70, dans les années 80. Vous faites donc partie de ce qu'on appelle la génération Mitterrand. Cette génération, François Mitterrand. Qui était François Mitterrand ? François Mitterrand était membre d'un complot avec Françoise Dolto. Vous savez, cette femme qui a écrit sur l'enfance dans les années 60 et qui a créé le concept d'enfant roi. Eh bien, la gauche et Françoise Dolto étaient liées ensemble dans un mouvement de création d'enfant.
Monsieur le psychologue, pouvez-vous définir ce qu'est l'enfant roi ?
Alors, l'enfant roi, c'est un concept inventé par François Dolto, ces enfants qui font tout ce qu'ils veulent. Voilà. C'est ce que c'est. Et cela correspond au mouvement de déréliction générale de la société à partir de 1981.
Il est aussi appelé petit connard dans le langage courant.
J'ai d'ailleurs écrit un livre à ce sujet que vous pouvez acheter encore chez Plon. Oui, le 26 euros connard. Chez Plon, dans toutes les bonnes librairies. Pourquoi Valéry Giscard d'Estaing aurait dû gagner. Et qui explique vraiment en détail ce complot de la gauche et de François Mitterrand et qui a fichu en l'air, disons-le, la société française.
Merci, monsieur le psychologue.
Alors, sinon, une autre solution consiste, parce qu'en fait, de nos jours, il existe d'excellents sites de rencontres en ligne. Alors, en gros, ça fonctionne de façon très simple. Si vous avez un algorithme derrière. Qui,
c'est un super
ce qu'on appelle un algorithme de matching en fait dans l'absolu en fait ça repose sur la théorie des graphes si vous voulez en fait donc vous prenez un graphe dont les sommets sont les personnes et ensuite vous essayez de définir les différentes interactions entre elles et par
afin de pouvoir enfoncer son sommet dans les personnes c'est ça le but final
non
des
pas
sites
du tout
c'est comme Tinder en fait c'est comme Tinder
De quoi parlons-nous qu'est-ce que Tinder vous pouvez m'expliquer s'il vous plaît
non c'est pas Tinder c'est Tinder.
Alors, oui. De quoi s'agit-il ?
Tinder est une application mobile qui permet de matcher des personnes dans votre entourage géographique.
Une application mobile, ça fonctionne sur ce genre de choses ?
Oui, sur mobile. Voilà. Je vous en parlerai tout.
On peut on télécharger dans l'application à but purement scientifique, bien évidemment.
À but purement scientifique.
Vous en parlerez après.
D'ailleurs, à noter qu'il existe aussi une version pour les jeunes enfants qui s'appelle Kinder.
Oui, non, mais ça, oui, ça. Bon, la surprise est toujours la même, mais bon. Oui, mais je pense qu'on oublie quelque chose d'essentiel dans le cas d'Alain de Lyon. C'est que cette grande solitude de la part d'un homme est aussi liée à sa situation économique, puisque un homme seul paye beaucoup d'impôts. Et donc, ma réponse à Alain, c'est de faire de l'investissement. Pas besoin de trouver l'amour, trouver un PEL. Un PEL, c'est l'avenir. Et comme le dit l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la contribution commune doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Et donc, les principaux impôts qui frappent la détention du patrimoine sont les taxes foncières, l'impôt de solidarité sur la fortune, puis votre RPP, étant donné que votre CSG et autres cotisations sociales sont prélevées à la source. Donc, Alain, écoutez-moi, ne prenez pas de chien, ne prenez pas de femme, prenez un bien immobilier, ça réglera tous vos problèmes.
Je peux vous conseiller un conseiller fiscal, j'ai pu grâce à lui faire exempter d'impôt l'achat de mon appartement dans le 16e arrondissement, voilà.
Oh non, tu seras terminé quand j'en aurai décidé ainsi.
Ah, je crois que la régie a parlé. Et donc, passons tout de suite à Jessica. Jessica qui nous appelle de Paris et qui est une ancienne élève de l'ENS de Lyon et qui a un petit problème avec son contrat décennal.
Jessica.
Salut à tous. Je suis une fidèle de Transistor que je suis depuis quelques années déjà. Voilà, j'aimerais savoir si vous pouviez m'éclairer. J'ai quitté l'ENS depuis 2 ans maintenant et je voulais savoir comment ça se passait pour l'engagement décennal, car j'ai peur d'être en rupture de contrat. Voilà, merci.
C'est quoi le contrat décennal ?
Voilà un auditeur.
Alors le contrat décennal, c'est un papier. C'est un papier. Oui, parce que c'est un contrat, donc le contrat est signé.
C'est imprimé sur des feuilles, nous sommes bien d'accord.
Oui, rien de plus.
Ça existe maintenant les contrats électroniques.
Et c'est signé devant
notaire. Oui, en effet, et en termes de contrat électronique, en fait, alors, ça pose d'intéressantes questions informatiques sur la signature des contrats. Parce que l'authentification en informatique, en fait, c'est un sujet absolument primordial.
Et on fait ça avec des écrans brillants ou non ?
Qui attaque les yeux ou le visage ?
Oui. Non, mais il ne faut pas se leurrer. La signature d'un tel contrat, c'est comme du BDSM. Vous avez vu le dernier film, là, 50 Shades of Grey ? Mais il y a une signature de contrat dedans. Bah, oui. C'est la même chose. Le normalien, quand il accepte de signer l'engagement décennal, accepte de faire du BDSM avec l'État français.
Tout est question d'empreinte avec l'État.
Tout est question de l'empreinte que cela laisse sur le corps du normalien. Parce que,
empreinte au fer rouge, apparemment.
Hein. Au fer rouge, mais je...
Y a-t-il des normaliens autour de ce plateau ?
Non,
il n'y a pas de normaliens.
Dommage, ils auraient pu nous montrer leur marque de fer rouge, mais bon.
Mais tout dépend d'où elle est, parce qu'il y a des endroits qu'on ne
montre pas. Scientifique, purement, bien évidemment.
Et on est à la radio, on montre pas son corps à la radio.
Ce serait intéressant.
Puis c'est pas possible, c'est pas comme si c'était étudié.
Oui, c'est une question très très peu intéressante.
Oui, mais revenons au principe de Jessica. Qu'est-ce qu'elle risque en cas de rupture d'engagement décennal ?
Une grosse peine de cœur ?
Probablement. Oh.
Mais me piquez pas mon sujet, oh !
Prenons l'exemple de cette fameuse normalienne dont j'oublie. Oui, Christine. Christine and the Queens, voilà. Où es-tu, Christine ? Christine, es-tu parmi... Non, mais voilà, parce que Christine and the Queens est partie avec des... Non, mais Christine and the Queens est quand même partie. Christine and the Queens a fait
Jessica, tout le monde se fout de votre problème.
Mathias, vous avez fait une fixation sur cette Christine and the Queens. Un fantasme de jeunesse?
Oui, enfin... Christine the Queens, donc on n'a pas d'extrait sonore.
C'était votre drag queen, c'est ça hein. C'est pour ça que vous l'avez surnommé comme ça hein.
Non, mais je ne vois pas pourquoi vous m'attaquez. On est là pour répondre aux questions des auditeurs et pas pour faire.
Bon, du coup, on passe à la question suivante.
Si à moins que quelqu'un ait quelque chose à dire.
Non, nous nous enlisons dans les débats.
On s'enlise. Alors, une question très importante maintenant, puisqu'elle touche bon nombre de Français en cette période de crise économique et surtout en période de débat sur la loi travail. François H. de Paris nous appelle avec une question d'ordre professionnel.
Bonjour à tous et à toutes. Ma question est professionnelle. Je suis en CDD renouvelable et je ne sais pas s'il sera renouvelé. Le terme de mon contrat approche rapidement. J'espère de tout cœur que mes patrons me laisseront une chance de continuer ce travail, même si les résultats n'ont pas vraiment été à la hauteur. Ma question s'adresse donc à l'astrologue de l'équipe. Voyez-vous une croissance professionnelle ou un changement maintenant ?
Merci François H. Et pour vous répondre, notre astrologue en chef, ici présent.
Cher François H., pas d'inquiétude. Les astres m'ont parlé cette nuit. Donc Jupiter, un Mercure, hein, n'est-ce pas ?
Les astres viennent nous visiter la nuit ?
Ça dépend lesquels. Jupiter en Mercure me prédit donc une fin d'année douce et paisible, très favorable à votre développement personnel et professionnel. Vous êtes un lion et pas un flan, fort, puissant, viril. Et Mars, en planète guerrière, va entrer dans votre champ astral et se lier à Vénus pour vous aider à venir à bout de
à
tous vos concurrents.
Non.
Pardon.
Non, j'ai pas compris.
Était-ce un jeu de mots ?
Non, mais j'ai pas entendu.
Vénus,
d'accord. Oui.
Alors, si je peux me permettre, Madame l'astrologue, vous disiez que les... J'ai un conseil pour vous.
Il y a un ton pédant quand même quand vous dites Madame l'astrologue.
Oui,
vous
ça fait un
mademoiselle
peu météorologue.
Eh bien, Mademoiselle l'astrologue, je préfère ce terme d'ailleurs, mais bon, le politiquement correct, on verra ça plus tard. J'ai un conseil pour vous. Si les astres viennent vous visiter la nuit, vous en rêvez sans doute. Je pense que vous auriez besoin d'une consultation pour que nous en parlions. Vous pouvez prendre rendez-vous avec ma secrétaire et je peux vous recommander mon très fameux ouvrage.
Excusez-moi, vous êtes poisson.
Non.
Je sens que vous êtes poisson.
Poisson, quelle est cette chose ? Je connais l'animal, je ne suis pas un poisson.
Je vous conseille vivement.
Alors je crois que la régie a des petits problèmes, s'il vous plaît. Je crois que la régie a quelques petits problèmes d'ordre spontané et des problèmes de peut-être de syndrome de la Tourette transposé à la régie. Donc je la prierai de bien régler voilà. On m'a compris.
Voilà, que la régie se calme.
Parlez-moi de ce poisson, ça m'intéresse.
Alors d'abord, j'aimerais juste dire à François H. que les murmures des astres sont parfois vacillants et qu'ils peuvent changer aussi vite que Clément M. de paire de lunettes. Ceci est un message personnel. Donc, François H.
Ça claque.
Mais qui est ce Clément dont on nous parle de
François H. Je vous conseillerais quand même de consulter votre horoscope de 5 à 6 fois par jour. Car comme...
Sinon, je peux parler d'informatique. Hein.
Non, mais vous qui avez l'air de connaître François Mitterrand, on peut savoir que François Mitterrand avait ses propres astrologues, n'est-ce pas ?
Alors, le cas de François Mitterrand est extrêmement compliqué. Vous n'êtes pas sans savoir que François Mitterrand avait effectivement son astrologue fétiche qui s'appelait Elisabeth Tessier, une femme qui a soutenu une thèse. On ne sait trop comment, on ne se formalisera pas du sérieux de cette université de gauchistes qu'est la Sorbonne, puisqu'ils sont de toute façon acquis à cette cause de complot dont je parlais au début de l'émission, qui visait à déstructurer la société.
Parce que vous pensez qu'en tant qu'astrologue, on ne peut pas soutenir de thèse ?
Ah oui, je le pense, très sincèrement. Je remets en cause votre légitimité.
D'ailleurs, il a écrit un bouquin là-dessus.
Mais quel est...
Chers auditeurs, on sent une tension entre l'astrologue et le psychiatre. Moi, je dis, il y a quelque chose dans l'air.
Oui, donc, monsieur le sexologue, comment analysez-vous les rapports d'antinomie et d'acrimonie entre ces deux personnages ?
Ils veulent se sauter dessus, c'est tout.
Ah,
c'est bestial ou pas ?
Oh oui.
Bon, je sens que ça devient un peu chaud sur le plateau de cette libre antenne de Transistor.
Et...
La régie approuve, on dirait.
La régie va entendre parler de moi. Mais alors, vous n'êtes pas sans savoir, comme je l'ai dit en introduction, que nous sommes allés aux Inter-Q. Aux Inter-Q, donc manifestation culturelle à l'ENS d'Ulm.
Inter-Q 2016, Inter-Q là, pardon.
Un peu de tenue tout de même.
Je suis sexologue, voyons.
Nous sommes allés à la rencontre
de beaucoup de choses, on sait.
Nous sommes allés à la rencontre des gens festifs qui attendaient le bus patiemment à la Fontaine Monod et ils nous ont soumis leurs questions. Et la première question, je me tourne vers vous, l'informaticien, puisque c'est une question d'informatique pure.
Bonjour, en fait j'ai un problème avec mon ordinateur qui s'allume pas. J'ai un message d'erreur qui s'affiche fil système que corrupted. Voilà. Alors est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît?
Alors en fait, la queue dont tu parles est une queue anglaise. En fait, c'est une structure très courante en informatique, c'est ce qu'on appelle une structure de fil.
Vous êtes en train de dire qu'un ordinateur a une queue?
Oui, enfin plein en fait. En fait, vous pouvez
Il en a plein.
Alors, c'est ce qu'on appelle les structures FIFO. Oui, c'est mignon, hein.
Oui, oui. L'ordinateur, en fait, c'est un fifou, c'est ça.
C'est ça. Mais en fait, alors, je vous explique comment ça marche. C'est une structure de données, si vous voulez, où vous pouvez sauvegarder des données. Alors, si par exemple, vous appelez Q votre fil.
Chez les humains, c'est une structure d'injection de données, hein, précisément.
Alors, du coup, voilà, vous notez T, sa tête, son premier élément, et petit Q, sa queue. Bon, si maintenant vous voulez insérer un élément, en fait, le principe de cette structure FIFO par rapport à la LIFO, hein,
excusez-moi, voilà. Vous êtes cancer, non?
Non, pas pour l'instant.
Par contre, monsieur l'informaticien, votre présentation est en train de faire un tête à queue. Je suis désolé, on n'y comprend plus rien.
En fait, non, mais laissez-le parler aussi.
L'idée est simplement, en fait, quand vous avez votre élément, ben, alors vous voulez le mettre dans la queue, il suffit de l'enfiler sur petit Q. Non, mais c'est comme ça qu'on dit, c'est pas ma faute. Et voilà, vous avez une structure de fil. Alors après, vous avez ce qu'on appelle les fils de priorité.
Je suis désolé de vous couper, mais ce que vous dites m'intéresse beaucoup. Je suis en effet en train d'écrire un ouvrage sur les sexualités alternatives. Je pourrais peut-être consacrer un chapitre à la sexualité.
Vous êtes sur le point de définir petit cul chez l'État, ce qui est particulièrement intéressant parce que c'est beaucoup plus dur.
Il faut que vous appeliez ma secrétaire pour qu'on prenne rendez-vous.
Alors, bon, voilà. Petit cul chez l'État, c'est quoi?
Alors, en fait... Quand vous voulez implémenter une file de priorité, vous êtes obligé de définir une structure de tas. Alors, le principe d'un tas, c'est que en fait, tous les éléments tombent vers le bas et donc les plus lourds tombent.
Enfin, c'est vraiment fou,
Et donc, le principe du petit cul est d'aller fourrer le tas, c'est ça?
Mais en fait, c'est un arbre.
Là, on comprend alors, mieux.
Vous m'intéressez, là, la sexualité végétale chez les ordinateurs. Ça devient alors, curieux, là.
Alors là, vous parlez très clairement d'un complexe d'Oedipe sur votre tata. C'est bien comme ça que je le traduis. Or, je vous parlais de François Mitterrand tout à l'heure. Comment était appelé François Mitterrand? Je vous le demande, son surnom. Qu'est-ce que c'était? C'était Tonton. D'où? On voit bien la cohérence. Vous êtes atteint de ce que j'appelle un Oedipe intégral, puisque vous êtes une génération post-Mitterrand. Mais. Prenez rendez-vous avec ma secrétaire, je vous dis, nous aurons l'occasion d'en reparler.
Oui, on prendra tous rendez-vous.
Est-ce qu'il suffit d'acheter un livre, sinon, parce que...
Oui, mon livre, « Pourquoi Valéry Giscard d'Estaing aurait dû gagner », chez Plon, 26 euros. Ouais.
VGE, qui est notre ami à tous. Et tout de suite...
Sauf à la régie.
Un débat brûlant d'actualité et une question qui concerne la loi travail.
Je voulais connaître l'impact de la loi travail sur la sexualité des mollusques. Là. Et je demande si vous pourriez me répondre. Merci.
Mais alors, je pense qu'il y a moyen de le modéliser informatiquement, ça. Hein.
Je ne sais pas si c'est très radiophonique et si ça peut parler au commandement.
Mais je peux essayer de l'expliquer si vous voulez.
Bah, allez-y.
Déjà, les mollusques font-ils grève? Alors,
Mais ils sont mous, voyons.
Et les grévistes sont-ils des mollusques?
Et donc les grévistes sont mous, c'est ce que vous êtes en train de dire?
Non, le mollusque, par définition, est mou. Or, qui d'autre est mou dans ce pays?
Bonne question,
On ne prendra pas position. Donc, monsieur l'informaticien, vous souhaitiez modéliser?
Ouais, mais en fait, là, j'ai pas d'idée qui me vient, donc je pense qu'il va falloir que quelqu'un continue.
Ah oui. Ou alors, cette question peut être sans réponse, puisque la loi travail s'en fout un peu. Et... Bon, si cette...
De toute façon, si ce mollusque est fonctionnaire, déjà, il n'est pas concerné. Je pense qu'il faut partir de là.
Mais que pensez-vous des fonctionnaires?
J'en pense beaucoup de choses, mais cela nous emmènerait trop loin. Je pense écrire un livre un jour sur l'histoire de la fonction publique pour démontrer à quel point ce fut une grossière erreur.
Bon, après, ceci dit, la sexualité des mollusques me concerne au premier plan.
Oui, parce que vous
avez des révélations
vous
à faire.
Vous travaillez beaucoup avec des personnes âgées, si je me souviens bien.
Oui, mais contrairement à votre ami informaticien, je ne fais pas de la modélisation, je fais de l'observation.
Et qu'observez-vous ?
C'est encore pire.
Alors, ce que j'observe, disons que pour vous le présenter, il ne faudrait pas que j'écrive un livre, mais une bande dessinée. Cette bande dessinée, comment dire ?
Question suivante.
Oui. Voilà. Il ne vaut mieux pas que vous la voyez.
Naturellement.
J'ai vu tant de choses, humains.
Oui, donc, sans transition, passons à une question qui touche l'ENS en son cœur et en son sein. Une question sur la cafette.
Que pensez-vous du nouveau canapé de la cafette ?
Grand débat.
Je suis contre.
Un peu trop petit.
Après essai, je dis que c'est parfait pour copier les dessus.
Mais non, il y a des accoudoirs beaucoup trop hauts, en fait.
Oui, parce que oui, on doit rappeler qu'il a été trouvé à la décharge, si je me souviens bien. Enfin, la décharge à côté de Mono. Oh, tout de suite.
Bon, passons. Disons que certaines voix diraient que Mono est la décharge, mais bon, on va pas en
alors là,
si
par contre, il y a un problème. Je peux pas laisser prononcer ce genre d'allégation devant moi. Je pense qu'il faut prendre 2 minutes pour parler de l'importance de Mono dans cette école.
Quelle école ? Enfin, quel est votre rôle, informaticien ?
Mais je pense que Mono est vraiment la charpente sur laquelle repose toute cette école, dans la mesure où dans notre société aujourd'hui, l'informatique en particulier. Mais exactement !
On vous censure. Passons tout de suite à une question cruciale pour la vie étudiante de l'ENS.
Est-ce que l'hétérophobie est un vrai débat à avoir à l'ENS de Lyon ?
Et oui, est-ce que l'hétérophobie est un vrai débat à avoir à l'ENS de Lyon ? Et je pose donc ma question à monsieur le psychologue.
Ah oui, on m'avait contacté l'an dernier pour venir faire une étude, et j'ai donc assisté à ce qui s'appelait une soirée cuir moustache. Et j'ai constaté...
À l'ENS.
À l'ENS, oui, en salle festive. Et j'ai constaté qu'il s'agissait d'une soirée où les homosexuels n'étaient pas stigmatisés, parce qu'ils représentaient finalement un grand nombre de l'auditoire de ce concert, je crois. Voilà.
Oui.
Je vois que la régie approuve. Et monsieur le sexologue, et monsieur le dandy, avez-vous un...
Une régie hétérophobe.
Moi, je voulais redemander au psychologue si c'était dionysiaque comme ambiance.
Dionysiaque.
Ça, c'était une occasion de caser un mot compliqué.
Dionysiaque ou masochiste ?
Ah, masochiste, très certainement. On voyait des gens tout de même nus sous leur cuir, c'était tout de même... Imaginez que ces gens se sont baladés dans le
monsieur le psychologue, n'est-on pas tous nus sous son cuir ?
Vous portez du cuir ?
Ah mais nous portons tous du cuir, notre peau est un cuir... Oui, pour ça, on verra ça plus tard.
Alors, moi, pour ma part, j'ai souvent participé à des soirées, ici, en étant sous couverture. C'est-à-dire que j'étais déguisé en barman... Et je servais donc les gens et des fois je faisais des essais donc sur certains types de composés pour voir si ça marchait bien, ce genre de choses, voir les effets que cela faisait. Et j'ai pu remarquer que effectivement il y avait une activité parfois étrange, notamment à partir d'une certaine heure.
Vers quelle heure environ ? Décrivez précisément.
Oui, soyez scientifique s'il vous plaît tout de même.
Oui, c'est vrai. Alors, très exactement, cela a commencé à partir de 23h12, après le troisième...
Verre d'alcool ?
Non, il y avait beaucoup plus de verre d'alcool déjà.
L'alcool est autorisé ici.
Ah, peut-être, je ne sais pas. Puisqu'il ne nous reste qu'une petite minute avant la fin de cette libre antenne, qui aura été, je l'espère, très utile à tous nos auditeurs et à tous ceux qui nous ont posé des questions.
Je mettrai la référence de mes livres en bibliographie sur la page de l'émission, je vous enverrai.
Oui, nous les publierons sur Internet un jour. Et alors,
j'ai Fayard et Plomb, 26 et 27 euros, effectivement.
J'aimerais passer la dernière question d'un de nos auditeurs. Est-ce qu'il serait possible de la voir ? Elle est très importante. Est-ce qu'on pourrait la réentendre, s'il vous plaît ?
C'est l'apéro ?
Ah, là je crois qu'on est tous d'accord pour dire que oui.
Oui. C'est l'heure de l'apéro.
Merci à tous pour nous avoir écoutés pendant cette libre antenne. Et ne vous inquiétez pas, vous pouvez tout nous dire. Et on est à votre écoute, coûte que coûte.
Ah, il y a un flash, hein ? Il y a un flash un peu.
Alors, petite gourmande,
pâtisserie. Alors, viens goûter mon croissant à la saucisse. Viens goûter mon croissant.